À Rencontre spirituelle, aujourd'hui sera question d'une sainte comme on les faisait autrefois. Des saintes dont la vie est marquée par toutes sortes de choses merveilleuses. Puisqu'elle est morte en 1343, elle a donc vécu au 13e et au 14e siècle. Et on la considère comme une servante de Marie, la fondatrice même de servante de Marie. Les femmes, évidemment. Et elle avait une énorme dévotion à la Sainte Eucharistie. On l'appelle même la Sainte de l'Eucharistie. Vous verrez, à la fin de sa vie, s'opère un miracle absolument extraordinaire, dont ont été témoins des gens sérieux qui nous l'ont raconté. Tout ça se situe à Florence, la Florence du 13e siècle et du 14e. Et c'est une ville en Italie, comme vous savez, à l'époque, qui est extrêmement puissante, autant de Sainte-Julienne de Falconieri. Sa splendeur n'avait pas d'égal, nous dit Monseigneur Chimichel, là, dans un ouvrage qu'il a publié, et qui s'appelle tout simplement Sainte-Julienne, dans sa collection « Saint de tous les temps ». La ville de Florence, à cette époque, j'ai fait des petites recherches ici et là. Bien, évidemment qu'elle faisait comme d'autres villes en Italie. On s'y construisait d'immenses tours. À Bologne, il en reste beaucoup. Des tours immenses, on n'a pas idée. C'est très, très, très grand. C'était la puissance que l'on exerçait dans certaines familles, qui se manifestait dans ces tours immenses. Et évidemment que ces villes comme Montréal et bien d'autres ont beaucoup, beaucoup de clochers. Hein. On dit qu'à Montréal, il y en a plus de 300, mais là-bas, il y en avait des fantastiques, des églises magnifiques, qui sont encore là en grande partie. Superbes, des églises magnifiques. Il y avait des remparts, des portes monumentales. Et comme on en avait à Montréal, nos remparts sont disparus et nos portes monumentales aussi, mais à Québec, c'était en grande partie préservé ou reconstitué. Et dans ces murs, eh bien, il y avait là, à Florence, une élite guerrière, une élite littéraire aussi, qui se rencontrait. C'était une république puissante qui était fière de son indépendance. Hein. La république de Florence était jalouse de ses droits, car l'Italie était toute subdivisée ainsi en villes et en seigneurs. Et elle est au cœur, finalement, Florence, de toute l'Italie puissante et commerçante. Et l'histoire de Sainte-Julienne Falconieri nous apparaît donc comme une espèce de poème. C'est une fête un peu particulière aujourd'hui. C'est pas une vie de sainte moderne, c'est une vie de sainte de cette époque. Ça a pour cadre les fastes de cette fabuleuse cité. Elle appartient à l'une des plus grandes familles de la ville, les Falconieri. Et c'est peut-être l'époque la plus poétique, dit-on, de l'humanité. Et elle, bien, sa vie, c'est le poème d'une femme authentique qui s'affirme dans un siècle corrompu. Sainte-Julienne a beau être très riche et héritière d'une immense fortune, elle est passionnée du Christ. C'est la femme forte. Elle a un cœur d'apôtre. Les richesses, elle le sait, ne donnent pas le bonheur. Son père s'appelle d'un curieux nom, Clarissime. Très illustre, si vous voulez, Clarissime. Son père a franchi déjà les 70 ans quand elle naît. Et il n'a pas d'enfant. Ça va être son seul enfant. Et il n'y a personne pour recueillir son nom, ses richesses, ses traditions. Il en sent l'absence, hein, qu'un père qui n'a pas d'héritier. Et sa femme, qui a un curieux nom aussi, Riguardata, eh bien, sont tous surpris tout à coup d'attendre un enfant. Et c'est ainsi que Sainte-Julienne Falconieri naît en l'an 1270 comme par un miracle, nous dit son biographe contemporain Matti. Son père, d'après toute vraisemblance, devait avoir 72 ans au moment de la naissance de cet enfant, ce qui n'est pas tellement vieux puisque c'est mon âge. Et quant à l'âge de sa mère, on en est aux conjectures. C'est difficile de savoir au juste, là. Les premiers mots ont dit qu'elle a pris cette petite enfant dans son berceau, les premiers qu'elle a voulu bégayer, à mesure que sa langue se délie, sont Jésus et Marie. Ce sera aussi les derniers mots qu'elle va prononcer. Toute sa vie est là. Elle naît par Jésus, elle vit en Jésus. Et elle meurt dans cette étreinte miraculeuse qui va se manifester au moment de sa mort, étreinte miraculeuse de Jésus. Quel âge avait-elle à la mort de son père? L'histoire ne nous le dit pas, mais elle doit être encore bien jeune parce que elle est née en 1270. Dès 1273, on ne trouve plus le nom de son père, clarissime, là, dans les actes de l'époque. Elle habitait avec sa mère, donc, les chambres hautes de la partie du palais consacrée à la vie de famille. C'est immense, ces palais à Florence et un peu partout en Italie, quand on voit ça. Immense. À 13 ans, elle songe déjà à garder une virginité perpétuelle. C'est curieux, hein, comme les enfants ont une aspiration tout à coup à se donner à Dieu. Dans mon jeune âge, on songeait à ça dès l'âge de 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. On voulait se donner. Elle commence à entrevoir, Sainte Julienne, que tout amour qui s'égare sur une créature est un détournement au préjudice de Dieu lorsque Dieu veut être le tout d'une âme. Quand l'enfant ressent cet appel, elle sait que tout amour qui s'égare sur une créature, c'est un détournement. Ou un détournement au préjudice de Dieu qui veut posséder cette âme exclusivement. Pour qu'elle puisse prier et être au cœur, comme Sainte Thérèse l'Enfant Jésus nous l'a très bien expliqué, être au cœur de l'Église. En 1284, Julienne, à leur âge de 14 ans, et dans tout l'éclat de sa beauté, et ce qui devait arriver arriva, Julienne est demandée en mariage, c'est l'élite de la jeunesse florentine. Et sa mère en est fière de voir quelqu'un de l'élite florentine, quelqu'un de distingué, qui la demande en mariage. Alors, elle en parle à Julienne qui refuse, respectueusement. Et en même temps, Julienne lui annonce qu'elle s'est déjà donnée au Christ. Sa mère n'insiste pas, elle est bonne chrétienne. Mais quand parmi les prétendants, tout à coup, surgit un noble et beau jeune homme qui a une grande fortune et qui, de plus, est un proche parent, c'est un cousin. Il s'appelle Falco, des Falconieri. Cette fois, le parti est trop beau, là. Sa mère et toute la parenté insistent auprès de Julienne. On met tout en œuvre, là, les caresses, les flatteries, les pleurs, les menaces. Et on est bien méditerranéen. Hein? Et la jeune Julienne est inébranlable. Et pourtant, c'est une lutte parce que c'est pas facile. Elle le trouve beau, elle aussi. Mais elle était fiancée à Jésus-Christ, puis c'est la mort dans l'âme, au risque de briser le cœur de sa vieille mère et d'irriter son cousin, qu'elle refuse net. Et alors, elle va se cacher dans le dernier recoin de la maison, elle prend les ciseaux, et puis rapidement, elle fait tomber à ses pieds ses cheveux, ils sont magnifiques. Le sacrifice est fait. Elle avait appris que dans les choses de Dieu, et c'est vrai ça, l'amour et la douleur sont presque synonymes, c'est curieux. Hein? Et que la grande cause du désarroi de la société de son temps, ben c'était quoi? C'est comme aujourd'hui, c'était l'oubli du crucifié, du ressuscité, et de la reine des martyrs, Marie. Assurément, Sainte Julienne Falconieri est détachée autant que possible des jouissances des gens riches, mais ça ne suffit pas. Son âme a trop de contact avec le monde, et ce monde lui fait mal, d'ailleurs. Il lui faut une rupture éclatante et complète par une union plus intime avec Dieu. Alors, tout naturellement, lorsqu'après avoir fait son vœu, Sainte Julienne tourne ses regards vers la vie religieuse. Elle songe à se faire à revêtir, au fond, le costume noir des servites de Marie, qui viennent d'être fondées, en partie par un de ses oncles, Saint Alexis, qui sera son directeur. Et les curieux mélanges de l'amour et de la douleur chez elle sont les mêmes que l'on retrouve chez la plupart des saints, au fond. Aimer Dieu, c'est douloureux dans le sens que l'on ne peut pas partager cet amour facilement avec les autres qui sont distraits. Et on sent qu'ils sont malheureux et on voudrait qu'ils apprennent à aimer Dieu comme on a appris, et peut-être à l'aimer un peu. Hein. Et Sainte Julienne, elle connaît ça, ce mélange de l'amour et de la douleur, et l'amour divin qui la possède toute, la fixe sans effort dans la prière. Elle y reste absorbée puis comme anéantie. Elle prie 10, 20, jusqu'à 24 heures même de suite. Et dans l'union intime qui en résulte, bien elle se laisse enlever par l'Esprit-Saint. Et ces moments de joie divine, son âme enivrée, allaite, on peut dire, elle est perdue en Dieu. C'est alors l'extase, hein? Et à la basilique de l'Annunciata, basilique qui a été construite par son père, très grande basilique immense et magnifique qu'il faut visiter à Florence, devant l'image miraculeuse de la Vierge, eh bien la foule émerveillée voit souvent cette jeune Julienne, qui est encore laïque, s'élever soudain dans les airs et demeurer là, prodigieusement suspendue, comme un ex-voto, nous raconte son historien Mathilde de son temps. C'est le même phénomène que celui de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, de Saint Joseph de Cupertino et de plusieurs autres saints. Et vraiment, elle représente tout un peuple, sa foi, son espérance, sa gratitude, mais elle n'oublie pas qu'elle est servante de Marie. Aussi, ses épanchements amoureux se dirigent tout naturellement vers la Sainte Vierge. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une prière plus suave quand on y pense que l'Ave Maria, le « Je vous salue Marie » Et elle salue comme ça la très Sainte Vierge 1000 fois par jour. Elle a une grande dévotion à Notre-Dame des larmes, comme on l'appelle, Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame des larmes, en particulier. Ça, sa prédilection. Elle-même, éplorée, bien, elle retrace les étapes douloureuses de la vie de sa mère Marie. Elle s'efforce de la consoler, d'essuyer ses pleurs. Elle lui offre le refuge de son cœur. C'est un langage mystique qui peut surprendre des gens. Mais quand on est amoureux, hein, dans la foi, on utilise des mots comme ceux-là. Et aussi, quand viennent les jours mauvais de l'an 1300, Julienne peut aller auprès de ses concitoyens et parler de paix, parce qu'il y a des moments de friction. Elle peut se le permettre, elle est écoutée, elle est un peu comme Sainte Catherine de Sienne. Elle appartient aux premières familles de Florence, elle a ses entrées partout et son ascendant mystérieux, bien, ça ajoute à son prestige. Hein? Et de quoi leur parle-t-elle? Eh bien, de Jésus crucifié, de Marie au pied de la croix. Ce sont ses thèmes, et voici un extrait de ce qu'elle dit à ces gens-là qui sont très puissants et qui se battent. Tous vos crimes, vos blasphèmes, votre impureté, votre orgueil, vos trahisons, vos meurtres, lui, le grand souffrant, elle, la toute pure, les ont expiés pour vous. Et vous ne pardonnez pas, et vous ne cessez pas d'augmenter le nombre de vos fautes, vous subissez des injustices, vous souffrez dans votre honneur, mais lui, elle, qu'ont-ils fait? Et pourtant, calomnié, honni, bafoué, crucifié, Jésus n'a su que mourir en pardonnant. Et Marie, au pied du gibet infâme, le cœur noyé dans la douleur, a bien voulu adopter pour enfant les bourreaux de son fils. Et en entendant cela, hein, les gens acceptent. Les seigneurs se donnent le baiser de réconciliation. Et Sainte Julienne poursuit ses conquêtes. Alors, Sainte Julienne poursuit ses conquêtes. Une femme forte, une femme audacieuse, une femme puissante et humble. On dit d'elle, elle a un don merveilleux pour réconcilier les factieux, les gens qui se disputent, quoi. Elle s'occupe, dit-on aussi, avec assiduité à convertir les pécheurs. Or, l'un de ces pécheurs fait un grand effort Il va jusqu'à nommer un factieux, un chicaneux, comme on dirait en langage très populaire, qu'elle ramène à Dieu. Et c'est Albizzo Falconieri, le cousin même de Julienne, un de ses cousins, qui doit avoir été un dangereux chef de parti. Et sa conversion, néanmoins, est si complète que, imaginez, il se fait religieux servite, puis il mène une vie très édifiante. On sait que la charité envers Dieu et la charité envers les hommes ont des points de contact tout naturels. Hein? Qui aime Dieu aime son prochain s'il aime Dieu vraiment. Or, la contemplation des souffrances du Christ puis de sa très sainte mère, tout ça, ça prédispose sainte Julienne Falconieri à s'attendrir sur les misères des hommes et des femmes. Elle sait très bien ce qu'un grand mystique, Rusbrock, dont je vous ai déjà parlé, dire plus tard, je cite, que la contemplation est d'un ordre moins élevé que l'acte d'amour qui rend service aux pauvres. Je répète, ce grand mystique a dit ça. Hein? La contemplation est d'un ordre moins élevé que l'acte d'amour qui rend service aux pauvres. Et il ajoute, pardon, si vous êtes ravis en extase, aussi bien que Saint-Pierre et Saint-Paul, et si vous apprenez qu'un pauvre malade a besoin d'un bouillon chaud, je vous conseille de vous réveiller de votre extase et de faire chauffer le bouillon. Et Rusbrock termine en disant, quittez Dieu pour Dieu. Trouvez-le, servez-le dans ses membres, vous ne perdrez rien au change. Mais que l'on sache bien qu'il est impossible de se dévouer aux pauvres constamment sans prier. Mère Teresa, qui l'a fait de façon admirable, priait chaque jour longtemps. Encore en bas âge, on voit bien que Julienne, Sainte Julienne Falconieri, est déjà pleine de compassion. Hein? Elle se dépouille pour revêtir les plus dépourvus, les plus dénués, en cachette même. Pardon. Elle dérobe parfois les restes des repas somptueux de son palais. Et parce que dans le palais des Falconieri, on mange de façon somptueuse. Et elle distribue ça à ses protégés. Son plus grand bonheur, c'est de servir les malades à domicile et dans les hôpitaux. Dans sa ferveur, elle va jusqu'à porter à sa bouche les déchets de ses déshérités de la vie. Elle embrasse avec amour leurs plaies hideuses. À travers ses plaies, elle voit Jésus. Jésus, qui est au fond, quand on y pense bien, le divin mendiant. Il mendie notre amour. Oui, il nous demande de l'aimer, parce qu'il sait que c'est là qu'on trouvera le bonheur. Il est la source de toute joie. Toute répugnance, dès lors, disparaît chez Sainte Julienne Falconieri, puis elle trouve une douceur infinie dans ce baiser qu'elle donne ainsi à celui qu'elle appelle « mon Jésus ». Aussi, elle a une foi héroïque qui est récompensée. La laideur des plaies disparaît au contact de ses lèvres de vierge. Le miracle sur la nature surgit du miracle de la grâce. Et le soir, quand, épuisée de fatigue, elle cherche le repos, c'est devant le tabernacle, la source intarissable, toujours vive de l'amour, le tabernacle, qu'elle vient se retremper. Dans l'église de la Nunciata, ou de l'Annonciation, si vous voulez, que nous allons fêter dans quelques jours à peine, jeudi, on aperçoit Sainte Julienne immobile, absorbée dans la prière, et elle porte sur sa figure, qui est couverte de larmes, une vive expression de foi et d'amour. Dans la nef immense de cette basilique qu'il faut visiter, c'est de toute beauté, où seule s'élève la supplication des moines servites qui psalmodient l'office, Sainte Julienne et ses compagnes prient, car elle les rassemble petit à petit. Bientôt, Sainte Julienne songe à réunir en une seule famille les sœurs, ces femmes qu'elle a réunies, qui sont dispersées aux quatre coins de Florence. Et plus Julienne y pense, plus cette idée prend corps. Ce sera la fondation. Hein? Et voici les conseils qu'elle donne à ses filles. Vous êtes ici-bas pour combattre et pour être combattu. C'est vrai, ça. Hein? C'est difficile de combattre au nom de l'Église sans être combattu et détesté, mal jugé, etc. Mais vous êtes un modèle, Marie, la plus pure des vierges, la plus soumise, la plus obéissante des épouses, ajoute-t-elle. Souvenez-vous de ce que dit l'apôtre, si je plaisais au monde, je ne serais pas le serviteur du Christ. Je répète cette parole très importante. Si je plaisais au monde, je ne serais pas le serviteur du Christ. Occupez-vous constamment, car dans un cœur oisif, la vanité a bien vite accès, dit-elle. Dans les afflictions, appuyez-vous sur Dieu seul. Ne suivez pas les maximes de la prudence humaine lorsqu'elles sont en désaccord avec la loi de Dieu. Et surtout, soyez charitables avec tous, sans distinction de pauvres et de riches. Voilà ce que disait Saint Julien de Falconieri. Et comme c'est bien elle, l'amour, le mépris du monde, elle n'a pas peur de la souffrance et du sacrifice, non, car il trouve l'amour. Et en partageant son temps entre Dieu, ses filles et sa mère, elle ne cesse de monter vers les hauteurs de la sainteté. Elle doit toujours habiter son palais pour s'occuper de sa mère. Elle assiste quand même chaque matin à la sainte messe. Elle y communie avec un profond respect. Puis elle adore pendant de longues heures le Dieu du tabernacle, mais alors elle oublie souvent de se nourrir, et Julienne vit presque uniquement, finalement, de l'Eucharistie. Comme Marthe Robin, qui en a vécu uniquement pendant 50 ans et qui est morte en 1981, je vous en ai déjà parlé. Le martyre de la Vierge Mère l'a rempli d'une piété infinie. Hein. Sainte Julienne brûle de lui témoigner la compassion de son âme. Elle supplie un jour Marie de lui faire ressentir les souffrances qu'elle a endurées au pied de la croix. Alors elle est initiée au plus haut mystère des douleurs divines. Et elle se trouve par surcroît comme inondée de joie, car la passion touche de très près la résurrection, et c'est inséparable. Oui, dans le mystère chrétien, la souffrance est source de joie. C'est curieux, un mystère. C'est le mystère de l'amour. D'après la plupart des biographes, sa mère, Rigardata, meurt en 1306. Elle a donc, elle, 36 ans. C'est entre les bras d'une sainte qui était son enfant, après s'être consacrée sous sa direction au service de la Reine des Cieux, que survient donc la mort de Rigardata. Et libre enfin, Sainte Julienne n'a plus à s'occuper de sa mère et du palais. Elle prend donc l'habit définitivement. Oui, c'est devenu une pauvre moniale, les pieds nus, la corde au cou, qui frappe à la porte du couvent. C'est Julienne, oui, la mère du couvent, qui frappe comme ça. C'est un spectacle étonnant parce qu'elle est à genoux devant toutes ses filles et cette sainte, en larmes, sollicite d'être admise dans cette congrégation, dans cet ordre qu'elle a fondé, et d'avoir la dernière place. Et les moniales sont confuses devant un tel abaissement. Ben, elles sont d'autre part très heureuses de posséder enfin leur fondatrice dans leur mur. Et spontanément, elles lui offrent la première place, mais Julienne refuse. C'en est donc fait, et avant de quitter pour toujours le palais, elle a renoncé en faveur des pauvres à l'immense fortune qui lui revient comme fille unique de cette famille des Falconieri. Et maintenant, elle va pouvoir ne plus s'occuper que de Dieu dans ce mystérieux mélange de joie et de pauvreté. Et ainsi, pour que sa pauvreté soit réelle, mais elle refuse le travail de ses mains. Elle se met à gagner par le travail de ses mains tout ce qui lui est nécessaire parce qu'elle refuse tout argent de sa famille. Et quand on veut lui faire accepter quelque chose, elle a cette belle réponse à une pauvre servante de Marie. Peu suffit. Et ce peu, bien je l'ai déjà. Aujourd'hui, il est question de Sainte Julienne Falconieri, qui a vécu autour des années 1300 à Florence. Une femme très riche. Elle vient d'entrer dans le monastère qu'elle a fondé, où il y a déjà des moniales qui l'attendaient. Sa mère vient de mourir. Sainte Julienne Falconieri a 36 ans. Et dans sa situation nouvelle, là, elle est La première partout où il faut donner l'exemple dans ce monastère où elle est allée rejoindre ses moniales. Elle est la plus assidue à suivre la règle. Elle ne se lasse pas de se dévouer. Et sur ces entrefaites, le vénérable André Balducci, qui est le deuxième successeur de Saint-Philippe au généralat des Servites qui viennent d'être fondés, vient visiter celle qu'on appelle les Mantelets, sans doute parce qu'elle porte une mante. Il est tout heureux de constater la ferveur de la communauté, mais il demeure profondément édifié de voir la fondatrice Sainte-Julienne Falconieri, qui est ignorée et comme ensevelie dans son œuvre, et qui est pourtant bien prospère, et il voit tout de suite qu'elle n'est pas sa place. Et aussi, il réunit toutes les sœurs, puis il leur demande de se choisir une supérieure, et comme il faut s'y attendre, bien Sainte-Julienne Falconieri est élue à l'unanimité. Elle a alors, donc, comme je vous l'ai dit, 36 ans, et ses pénitences redoublent. Elle est en bonne santé, mais elle ne dort presque plus et seulement étendue à terre. En été, elle s'habille de grosse laine et en hiver, elle va constamment pieds nus. Vous savez, il faut se situer à l'époque. Quand j'étais jeune, déjà, on voyait les Clarisses, et encore, je pense, qui allaient pieds nus dans leur monastère. Et on voyait même par des froids assez avancés, à l'automne, ou tôt au printemps, des moines à Montréal, comme des franciscains, des capucins, aller en sandales. Moi, j'avais froid aux pieds pour eux. Eh bien, c'était une façon de vivre qui indiquait qu'on se disciplinait pour être plus libre d'aimer Dieu. La sainteté, impitoyable pour soi, en somme, est pleine de tendresse envers les autres. Et c'est comme ça que les gens agissent. Ils sont durs à leur propre égard, mais très souples à l'égard des autres. Et Sainte-Julienne, qui est sévère pour elle-même, elle n'est que douceur à l'égard de ses filles, les moniales. Quand elle les reprend, d'ailleurs, c'est avec une autorité pleine de grâce et de gentillesse. Elle sait vraiment être la supérieure, ou si vous voulez, comme on dit aujourd'hui dans certaines communautés, la bergère. Son abord avait quelque chose d'infiniment attirant, dit-on, et puis son visage émacié, toujours empreint d'un bon sourire, saisissait tout le monde. Elle avait un langage très simple, même si elle était de très grande famille, mais elle était digne. C'est pour elle, avec facilité, qu'elle se consacre tout à Dieu et aux âmes. Et son exemple fait oublier ce que les veilles, les jeûnes, les observances peuvent avoir de pénible. Et comme Sainte-Julienne est vraiment mère, mais ses filles sont unies comme de vraies sœurs dans une parfaite charité. Mais bientôt, Sainte-Julienne va vivre un moment difficile. On est en 1310. Saint Alexis, l'un des fondateurs des Servites de Marie, que l'on considère dans bien des biographies comme son oncle, il est considéré comme le bon vieillard de Cafaggio, comme on l'appelle, a atteint l'âge inespéré de 110 ans. 110 ans. Et jusqu'au dernier jour, ce Saint Alexis a persévéré dans les austérités des premiers temps. Alors Sainte-Julienne est, pour ainsi dire, son œuvre, parce qu'il l'a dirigée. Il s'en est occupé de sa jeunesse. Il a assisté au prélude, on peut dire, de sa carrière fantastique. Il a guidé ses premiers pas vers Dieu. Il a suivi avec une consolation bien explicable les progrès de Sainte-Julienne dans la vertu, puis les triomphes de sa foi. Il est heureux auprès d'elle. Or, après avoir vu Julienne à la tête de l'œuvre, qui est le but de sa vie, il a assisté à l'approbation définitive de l'ordre des Mantelets, et le saint vieillard comprend qu'il va mourir, et il s'étend sur sa couche pour attendre la mort, et la mort vient le chercher le 17 février. 7 février 1310. Et la nouvelle que ce saint vieillard va mourir se répand tout de suite, et là, la foule, la Florence, accourt pour voir la mort d'un saint. Il est là, étendu, son pauvre corps décharné n'est plus qu'un squelette. Mais sa figure émaciée, blanche, comme ses cheveux, pourrait-on dire. Mais l'âme émerge radieuse. Il n'est plus que l'âme, on pourrait dire. On voit ça chez certains saints. Regardez les photos de Charles de Foucault à la fin de sa vie. Il est une âme. Il n'a pas nié son corps. Mais il a transformé son corps, et c'est l'âme qui transperce. Il fixe Saint Alexis un coin de sa cellule, et de ses lèvres, imperceptiblement, tombe très bas, très lentement, le laissant à ave qu'il récite chaque jour, et brusquement, un rayon jaillit, la chambre s'emplit de lumière, et des colombes se répandent, et dans le sillon d'or, Jésus, divin enfant, paraît. Et ses mains s'entrouvent et il laisse tomber sur le front de Saint Alexis une couronne de roses. Et avec le dernier des Saint Ave, vient ce grand serviteur de Marie, fondateur des Servites, exhale son dernier souffle. Le Concile Vatican II, dans la réforme du calendrier liturgique, a retenu cette date, 17 février, comme la fête des saints fondateurs, des Servites, des sept saints fondateurs des Servites. Alors voilà donc Sainte-Julienne Falconieri, sa nièce, désormais seule. Ce que nous disent les auteurs des pénitences de Sainte-Julienne à cette époque, ça fait frémir. Mais plaçons-nous dans cette époque. C'est très difficile pour nous aujourd'hui. Elle sévissait contre son corps comme s'il eût été de pierre, nous dit bonnement son historien Matti. Elle ne dort, pour ainsi dire, pas, mais seulement étendue par terre. Plusieurs jours de la semaine, le mercredi et le vendredi surtout, elle ne se nourrit que de l'Eucharistie. Et le samedi, c'est à peine si elle prend un peu de pain et d'eau le soir. Les autres jours, sa nourriture est si insuffisante et de si mauvaise qualité que lorsque, par obéissance, elle est obligée là, de se mieux nourrir, elle ne le peut pas parce que son estomac est désormais trop délabré. Alors, ce n'est pas des choses que je vous conseille. Je vous les lis parce que c'est l'histoire. Mais c'est une histoire d'un autre temps. Tout ça peut évidemment nous étonner, mais la souffrance. Mais c'est Sainte Thérèse d'Avila quand même. Je dois bien lire ce que Sainte Thérèse d'Avila dit. Elle s'y entendait. Elle a dit « Les souffrances seules peuvent me faire supporter la vie. Souffrir, voilà autant de mes vœux. Que de fois, du plus intime de mon âme, j'élève ce cri. Seigneur, ou souffrir ou mourir, c'est la seule chose que je vous demande. Peut-être que l'amour presque intempestif des saints font qu'ils souffrent en ce sens qu'ils voient autour d'eux tant de gens qui n'aiment pas Dieu. Et c'est peut-être la plus grande souffrance. Mais les saints n'en restent pas là. Et l'amour, oui, est éminemment actif chez les saints. Souffrir pour eux, c'est donc encore agir. Alors comment ils font? Ben nous, pauvres créatures, quand nous souffrons, ben nous sommes plutôt incapables d'agir. Parce que la souffrance épuise nos forces et puis nous nous plaignons. Mais cela vient de ce que notre activité est purement matérielle et terrestre. On ne s'élève pas. Nous sommes terre à terre. Or, la vie des saints, eux... Ah, c'est autre chose. La vie des saints est éminemment une vie de l'âme. Et les souffrances n'épuisent pas cette vie. Car elles en sont elles-mêmes le produit vigoureux. Et Sainte-Julienne, parvenue au point culminant de la vie... qu'on peut dire aimante et souffrante, là, ben c'est Julienne déployant les ressources d'une activité féconde. Et je vous rappelle que le luxe des femmes, surtout à Florence, fait alors d'effrayants progrès. C'est terrible. Les soies, les velours, les fourrures, les ceintures en or ou en argent, les pierreries, les colliers de grande valeur, rien n'est assez précieux pour les Florentines. Et je dirais presque pour toutes les femmes d'Occident, y compris les Québécoises. Et les modes les plus extravagantes, où l'on jette l'argent avec frénésie, les décolletages, avez-vous vu ça hier aux Oscars, les décolletages les plus éhontés, s'exhibent dans les rues de Florence qui s'efféminisent. Oui, tout le monde s'efféminise, même les hommes. L'usage des maquillages, même chez les hommes, est universel à cette époque. Et les fêtes et les réjouissances que les moindres prétextes servent à multiplier, là, mais ça favorise aussi les modes, le faste. Alors des fêtes sacrées chrétiennes comme l'Épiphanie, le carnaval pour célébrer la veille du carême, la Saint-Jean, c'est la Saint-Jean-Baptiste, la Toussaint, la fête de tous les saints, ça donne le signal de bombance gastronomique et le 1er mai de chaque année ramène la fête du printemps. Alors, pendant tout un mois, dans la ville des fleurs, Florence, ce n'est que promenade d'hommes et de femmes enguirlandés de verdure et de fleurs et on festoie, on danse à la belle étoile, mais heureusement, il y a la vie exemplaire de femmes comme nos carmélites de Montréal. La vie exemplaire de tant de grandes héritières consacrées à Dieu, qui, elles, quand même, dans la vie laïque, offrent aux âmes frivoles une leçon sévère et profitable. Et le contraste de la joie et de la paix de leurs âmes avec les agitations d'une vie mondaine fait réfléchir bien du monde. Et puis, par leurs exhortations, elles détournent beaucoup de gens de la platitude des fêtes et de l'insignifiance et du ridicule, les pertes de temps de nos amusements futiles pour en faire des âmes éprises, éprises, oui, des attraits d'une vie beaucoup plus remplie de Dieu. Car souvent, ces gens qui s'amusent ont quand même Dieu au fond de leur cœur jusqu'à un certain point, mais ils arrivent à l'oublier en s'excitant, s'énervant et en buvant. Mais Dieu est toujours là, qui les attire et les appelle, et plusieurs personnes même renoncent en tout à fait au monde, et après avoir distribué leurs biens aux pauvres, bien ils viennent grossir le nombre des servantes de la Vierge autour de Sainte-Julienne. Or, Sainte-Julienne Falconieri pressant la mort et le terme de ses souffrances. Minée par un mal étrange d'estomac que ses austérités, lui ont fait contracter, mais ces dernières années ne sont plus qu'un long martyr, hein, puis elle est loin de se plaindre. Elle ne fait que répéter sans cesse, « De grâce, que personne ne m'enlève du cœur mon amour crucifié. » Pour elle, l'amour crucifié, c'est l'amour ressuscité aussi, c'est inséparable. On est en 1341, elle a donc 71 ans, 70 ans, et Julienne sent que sa fin est proche. Le mal empire et bientôt, elle ne peut plus garder de nourriture. Elle doit languir sur son grabat en proie à des souffrances intolérables. Mais étrangement, elle est toujours joyeuse, toujours joyeuse. Et sa patience et sa résignation, ça réconforte un peu ses pauvres sœurs qui ont beaucoup de chagrin, et elle est au sommet de l'amour. Mais un nuage assombrit la splendeur d'une si belle mort. C'est l'Église, par respect pour le sacrement de l'Eucharistie, ne permet pas qu'on distribue la Sainte Communion aux personnes qui pourraient rejeter les espèces sacrées, qui pourraient pas les garder dans leur bouche. Et Julienne est dans ce cas, on a peur de ça. Alors quoi faire? On doit avertir Sainte Julienne. Et sa douleur alors est immense. Or, elle veut voir l'Eucharistie. Elle fait appeler son confesseur, le père Jacques de Montereggio, qui va rédiger plus tard les détails de cette scène extraordinaire qui va suivre. Écoutez bien. À peine est-il arrivé que Julienne se met à supplier si tendrement et avec des accents touchants, là, que ce bon père Jacques de Montereggio est saisi de pitié puis lui promet d'apporter le ciboire pour qu'elle meure en contemplant l'hostie. Et quand de loin le prêtre apparaît en portant Jésus, Sainte Julienne, comme mue par un ressort, se lève soudain et glisse à terre. Elle se prosterne devant le Seigneur. On ne se prosterne même plus maintenant au moment de la consécration dans bien des églises. Je trouve ça épouvantable. Nous devrions nous prosterner le front contre terre si nous le pouvions, comme les musulmans. Pourquoi pas? Et Dieu qui est là, sur l'autel, au moment de la consécration. Et son visage transformé et rajeuni se met à briller comme celui d'un séraphin. Elle dévore des yeux l'adorable cime. Et ses lèvres murmurent des souhaits plus ou moins perceptibles à Jésus, Dieu. Et pendant quelques instants, elle reste comme ça, absorbée dans son amour. Puis elle adresse au prêtre, « Oh, mon père, approchez-le de mon cœur. » Et alors, le père Jacques étend un corporal, hein, c'est un linge sacré, sur la poitrine de Julienne, doucement, puis il y dépose l'hostie. Et à peine l'hostie a-t-elle touché le linge sacré que, comme absorbée par une fournaise incandescente, elle disparaît. Et Julienne, souriante, transfigurée, jette ce cri d'amour, « Mon doux Jésus !» Et elle rend le dernier soupir. C'est le 19 juin 1341. Telle est cette prodigieuse mort dont on a parlé pendant des années et dont on parlera pendant des siècles, dit son historien qui a écrit ces choses. Alors, Sainte Julienne Falconieri est donc morte le 19 juin 1341. à 70 ans. Et Jeanne Soldérini, la plus ancienne et la plus aimée de ses disciples à Sainte-Julienne, elle est assistée de sœur Élisabeth et de sœur Marie. Et Jeanne Soldérini s'approche avec respect du corps de Sainte-Julienne Falconieri. Elle commence à s'acquitter de cette tâche difficile de préparer le corps pour les funérailles. Alors elle découvre la poitrine de Sainte-Julienne. Et elle pousse un cri. À l'endroit exact où a été déposée l'hostie, l'empreinte d'un Christ au milieu d'un cercle est miraculeusement calquée. Ainsi Jésus, a marqué d'un sceau l'amour indéfectible de sa bien-aimée Julienne Falconieri. Mais dès que le bruit de cette mort inouïe se répand, c'est pendant plusieurs jours à l'église de l'Annunziata, à Florence, où le corps a été exposé. Un défilé de peuple qui ne discontinue pas. Et les miracles ne tardent pas à éclore et son culte alors commence. Julienne Falconieri, fondatrice des mantelets ou des servites, des sœurs-servites, a été béatifiée en 1678 par Innocent IX, qui était lui-même tertiaire de l'ordre des services, et ce pape a été béatifié par Pie XII en 1956. Il y a beaucoup de bienheureux et de saints chez les servites. C'est en 1737 que Julienne a été inscrite au catalogue des saints. Sa fête, fixée au 19 juin. Je la célèbre aujourd'hui parce que je suis en repos en juin, juillet et août pour préparer les émissions de l'année suivante. Sainte Julienne Falconieri a été canonisée, écoutez bien, en même temps que Saint Vincent de Paul, Saint François Régis et Sainte Catherine de Gênes. Elle était vraiment en très bonne compagnie. Le corps de Sainte Julienne a été enseveli dans l'église de l'Annonciation, de l'Annunziata, sous l'autel de l'Immaculée Conception réservé à la famille des Falconieri. En 1569, quand on a réparé l'autel, on a mis les restes de la sainte dans une châsse, à l'exception du crâne, qui a été placé dans un autre reliquaire, mais quelques reliques ont été alors distribuées ici et là. Et en 1672 et 1676, on a déplacé encore ces restes pour les remettre finalement à leur première place, donc sous l'autel de l'Immaculée Conception de cette grande basilique à Florence de la Nunziata. Vous souvenez-vous du temps où, après la communion, nous avions tous nos missels, ou vous, les gens du même âge que Sainte Julienne quand elle est morte? Nous avions ces missels, puis il y avait des oraisons. Je vais vous en lire, ça va vous rappeler de beaux souvenirs. Et les jeunes, écoutez bien ça, nous lisions ça quand nous avions 8, 9, 10 ans. Et nous aimions beaucoup ça. Voici l'oraison de Saint Bonaventure, un franciscain qui a vécu il y a des siècles. Transpercez mon âme, très doux Seigneur Jésus, dans tout ce qu'elle a de plus profond et de plus intime. Transpercez-la du dard tout suave et tout salutaire de votre amour, de ce dard de la véritable et pure charité, de cette charité très sainte qu'a eue votre apôtre Saint Jean, en sorte que mon âme languisse et se fonde sans cesse d'amour et de désir pour vous seul. Qu'elle soupire après vous et se sente défaillir à la pensée de vos tabernacles. Qu'elle n'aspire qu'à sa délivrance et à son union avec vous. Faites que mon âme ait faim de vous, qui êtes le pain des anges, aliment des âmes saintes, notre pain quotidien supersubstantiel, ayant en lui toute douceur et toute suavité délectable. Ô vous que le désir des anges est de contempler, puisse mon cœur être toujours affamé et toujours se nourrir de vous, mon âme être remplie jusque dans ces profondeurs de la suavité de vos délices. Que mon cœur ait toujours soif de vous, source de vie, source de sagesse et de science, source d'éternelle lumière, torrent de délices, abondance de la maison de Dieu, qu'il n'aspire jamais qu'à vous, ne cherche et ne trouve que vous, qu'il tende vers vous et parvienne jusqu'à vous, qu'il ne pense qu'à vous, ne parle que de vous, et qu'il accomplisse toutes choses pour l'honneur et la gloire de votre nom, avec humilité et discernement, avec amour et plaisir, avec facilité et affection, avec persévérance jusqu'à la fin. Soyez toujours mon seul espoir, et toute ma confiance, mes richesses et mes délices, mon plaisir et ma joie, mon repos et ma tranquillité, ma paix et ma suavité, mon parfum et ma douceur, ma nourriture et ma force, mon refuge et mon secours, ma sagesse et mon partage, mon bien et mon trésor. Quand vous seul, mon esprit et mon cœur soient à jamais fixés, affermis et inébranlablement enracinés, ainsi soit-il. J'insiste en disant que nous lisions ça quand nous avions 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'était le temps des actions de grâce. On ne parlait pas à l'Église. On y priait. Et après la messe, la plupart des gens restaient là, à prier, et devant leur missel récitaient ces oraisons magnifiques. Comme âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi. Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos saintes plaies, cachez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous et de l'esprit malin, défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi et commandez que je vienne à vous, afin qu'avec vos saints, je vous loue dans les siècles des siècles. Amen.